Voilà, de début de deuxième partie d'émission, on va parler à la fois Jacques puis moi de deux livres au style et plutôt au genre différents de ce qu'on a, de ce dont on a l'habitude de vous parler. Ce sont des livres un peu, on va dire, aux teintes un peu désuètes, mais qui nous ont beaucoup plu en fin 2007. Donc, on avait envie de vous faire partager ce plaisir de lecture. Jacques commence.
Donc, c'est un roman de Alain de Mouzon et Jean-Pierre Croquet, qui s'appelle « Fromental et l'androgyne », qui est paru aux éditions Fayard en fin d'année. Donc, un roman à quatre mains ou deux claviers, selon comment ces jeunes gens travaillent. Il se passe en 1892, donc c'est aussi pour ça qu'on disait que c'était un peu...
Oui, ce sont des...
Voilà. Et là, ça commence par une série de meurtres, je préfère dire ça que des meurtres en série. Une série de meurtres étranges dans le milieu des beaux-arts parisiens. Une série de meurtres qui défraient la chronique, et elle vole même la vedette à l'archivedette de l'époque, qui était Ravachol, et ses attentats anarchistes, donc en début de l'année 92. Chaque meurtre est savamment mis en scène. Donc ça va intéresser à la fois la police et un certain Géoris Fromental, qui est un jeune écrivain parisien, donc de la fin du 19e siècle. Et il est convié par son copain, un copain de lycée, Abel Cyprien, qui lui est devenu flic, à l'aider à enquêter sur ces meurtres. Parce qu'en fait, Abel peut profiter du statut d'auteur, à l'époque on disait auteur naturaliste, de son copain Fromental, qui lui permet de rentrer dans les milieux donc des beaux-arts parisiens, dans lesquels les flics ne sont plutôt pas trop trop bien admis,
oui,
à l'époque.
Oui, ça leur permet d'aller qu'à un cas, à Bel qu'à un cas.
Voilà, oui, c'est malin ça.
Bon, non.
Voilà, donc les flics à l'époque dans ce milieu-là n'étaient pas très bien admis, je ne pense pas que ce soit tellement mieux aujourd'hui.
Bah, chez les anarchistes non plus. Hein.
Voilà. Bien sûr, pour faire une belle histoire, il y a une jeune femme, une belle mais étrange, elle s'appelle Hyacinthe. Elle a un physique ambigu, homme, femme, enfant, difficile de savoir, d'où le titre androgyne, bien évidemment. Et Géoris, jeune romantique, va tout de suite être attiré par elle. Mais elle ne fera que le fuir, mais le tenter, elle va partir, elle va revenir.
Je n'ajouterai rien.
Certes. Mais surtout, elle fréquentait toutes les victimes. Ce qui, bien sûr, va intéresser au plus haut point, à la fois Géoris, pour cette enquête, qui va lui permettre d'écrire le roman qui dormait sous sa plume. Et ce roman, ça sera quoi? Ça sera un roman policier. Le premier de l'époque. Parce qu'avant, on appelait ça des romans d'enquête.
Toute l'histoire de la littérature.
Exactement. Donc c'est un roman, je disais, écrit à deux claviers par Alain de Mouzon et Jean-Pierre Croquet, qui mêle à la fois l'historique, le polar à l'ancienne, le mystère, et aussi, ce qui est très très bien, c'est une balade dans le Paris de la fin du siècle, deux siècles avant là maintenant. C'est un roman passionnant, l'intrigue est malicieuse, il y a deux auteurs, donc, et il y a aussi deux enquêteurs, le flic et l'écrivain.
Mais il n'y avait pas encore de clavier, parce qu'on était en 1892.
Voilà, mais je pense, comme ils ont écrit ça en 2006, j'espère qu'ils avaient des claviers, parce que sinon, aux éditions Fayard, ils ont dû se retaper tout ça.
Oui, en plus, c'est quand même un roman assez conséquent,
roman
400 ou 500 pages, non, à peu près.
300...
Pardon, non, c'est pas grave.
350, voilà. L'écriture est impeccable, précise, ciselée, comme on dit généralement, mais c'est vraiment ça. Il faut dire que de Mouzon n'en est pas à son coup d'essai. Il écrit depuis les années 70. Il a déjà écrit près de 50 romans. Et en plus,
c'était quelqu'un de très connu, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès dans les années 80.
Voilà, et c'est aussi un des fondateurs de l'association 813. Donc, à l'époque, il est sorti à peu près en même temps que Jean-Patrick Manchette. Bon, mais c'était pas tout à fait le même style. Au début, lui était plutôt côté le masque, un peu les intrigues. Mais il a vraiment écrit dans tous les styles du polar. Quant à Jean-Pierre Croquet, lui, il est un petit peu moins connu. Mais sa spécialité, c'est les anthologies de textes. Alors, il a réuni des textes, évidemment, policiers, mais sur toutes sortes de thèmes. Et il a aussi écrit quelques scénarios de BD. C'est donc un roman qu'on passe vraiment un très très bon moment à lire, un peu comme on parlait une des dernières émissions, les romans de Contrucci, qui se passent un peu sensiblement
à la même époque.
Sauf qu'évidemment, au lieu d'être à Marseille dans le monde populaire, ici on est à Paris et dans un milieu des beaux-arts, qui est quand
artistique.
Même artistique, voilà, qui est légèrement différent, mais c'est tout aussi passionnant, ça se lit très très vite, ça fait penser aussi à ceux qui ont lu Les Aventures de Borot.
De Franck et Vautrin.
De Franck et Vautrin, voilà. C'est un petit peu cette ambiance-là.
En fait, ce qu'on pourrait appeler, comme on aime bien qualifier en France les genres littéraires, ça mêle aussi roman d'aventure un petit peu. Non ? Non, parce que c'est pas Les Aventures de Borot.
C'est pas aventure, parce que c'est très très limité à Paris, dans quelques milieux comme ça, de l'art. C'est assez étonnant, il décrit ces milieux
Eugène Sue a fait beaucoup d'aventures dans les bas-fonds parisiens.
Certainement.
Uniquement sans sortir de Paris. Voilà, alors comme moi j'ose absolument tout, je ne peux m'empêcher de cafeter la feuille que vient de passer Philippe, de l'autre côté de la vitre, à propos du prénom d'un des personnages de ce livre,
oui,
qui s'appelle Abel. Et je viens de lire derrière la vitre, elle est morte, Abel. Il ne faut pas se tromper de genre, Philippe, c'est pas grave, c'était mignon. Voilà, je passe au livre suivant. Horatio Winslow, Leslie Quirk. Ça s'appelle Le Spectre de Salem. C'est paru à Rivage Noir fin 2007, je ne sais plus trop quand, 8,50 €. C'est traduit de l'américain par Daniel Grivel. Livre étrange.
Rivage Noir dans la collection Mystère.
Oui, mais peut-on encore parler de cette collection, puisque maintenant ils ont rattrapé quand même Rivage Noir et qu'ils sont numérotés en tant que Rivage Noir. Enfin. Donc, comme je viens de le dire, avant qu'on ne m'interrompisse, c'est un livre très étrange, inclassable, empreint de mystère et de magie. Et comme je le disais tout à l'heure, complètement désuet. Comme un peu si les sœurs Baudin, je ne sais pas si vous avez lu Les Aventures des sœurs Baudin, ces charmantes sœurettes à ombrelles, dont les aventures nous ont vraiment enchantées, je vous les conseille, je redonnerai les coordonnées de ce livre, enfin le titre exact de ce livre après, parce que c'était vraiment très très bien. Et un peu comme si les sœurs Baudin avaient émigré dans les Amériques. L'histoire, un mystérieux malfaiteur recommence à commettre des méfaits. Je dis recommence parce qu'il a été condamné à mort et vient d'être enterré de fraîche date. De là à croire aux revenants, il n'y a évidemment qu'un pas. Mais pas que ne veut surtout pas franchir un des personnages principaux qui s'appelle Klotz. C'est un criminologue et en même temps son aide, Nolins, qui est le narrateur de l'histoire. On a le grand Galeotto, qui est un célèbre magicien à la retraite, qui n'y croit pas non plus, qui préfère essayer de démontrer l'imposture et de trouver les tours de magie qui est employé par le brigand qui se fait passer pour l'ancien brigand. Tout cela serait amusant.
Comme Gérard Majax.
Voilà, c'est ça, il a tout compris, c'est bien. Tout cela serait amusant pour Klotz, Galeotto, Nolins et les charmantes donzelles qui l'accompagnent, s'il n'y avait pas mort d'homme assez rapidement. L'affaire devient sérieuse. C'est en fait un classique meurtre en chambre close, comme on dit, mais où le rationnel cède le pas, pour un temps, aux devins, magiciens et autres prestidigitateurs. Ce livre a été écrit en 1928. Ça agit un peu comme un filtre sur les neurones des lecteurs. On n'y croit pas une seconde, mais on se laisse complètement emporter dans les arcanes de ce que j'ai appris au niveau du livre, ce qu'on appelait la reine des arts. En fait, c'est un grand illusionniste italien qui s'appelait Ferrariste Folletto qui a donné à la magie ce surnom de reine des arts. Ce roman, honnêtement, ça ne correspond pas franchement au genre littéraire dont j'aime parler et que nous défendons habituellement, mais on arrive à quand même être assez objectif pour dire que c'est un très bon livre et on a vraiment, enfin moi j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à lire du début jusqu'à la fin sans m'arrêter ce livre. Petit mot sur les deux autres.
Ce qui est somme toute essentiel quand on lit un roman, c'est d'y prendre plaisir.
Exactement. Donc un petit mot, j'ai eu un peu de mal à prononcer ces deux auteurs complètement inconnus pour moi, juste avant d'avoir
c'est
lu.
C'est fou, on parle de deux livres, il y a quatre auteurs.
C'est incroyable, est-ce qu'on va s'en sortir?
Je ne sais pas.
Combien sommes-nous ici ce soir? Donc les deux auteurs, Horatio Winslow et Leslie Quirk, c'était deux auteurs américains. En fait, ils ont été surtout collaborateurs de nombreux magazines à partir des années 20. Et ce livre, à ma connaissance, et ce qu'il en est dit dans le début de l'histoire, c'est leur seul ouvrage en commun et leur seul travail sur ce sujet bien particulier. En fait, apparemment, ce qu'ils voulaient, tout en faisant un roman, un vrai roman, c'est de dévoiler toutes sortes d'informations confidentielles sur la magie. leur métier de journaliste les a beaucoup aidés, mais c'est vraiment de bons romanciers parce qu'ils ont emmêlé ça vraiment d'une intrigue qui est vraiment bien construite. Donc voilà, ça s'appelle Le Spectre de Salem, Rivage Noir, collection Mystère, dirigée par Claude Chabrol et François Guérif pour tous les détails. Voilà, on continue
un
sur...
Un peu de musique, un morceau extrait de la bande originale de Walk the Line qui racontait la vie de Johnny Cash, qui est chanté par Joaquin Phoenix, qui jouait le rôle de Johnny Cash, et Reese Witherspoon.
Quel accent ?
Witherspoon, qui est une très belle blonde, et qui chante un morceau qui s'appelle Jackson. Voilà, donc Jackson, un morceau de Johnny Cash et June Carter.
Interprété par une ravissante blonde à l'avant-scène avantageuse, m'a-t-on indiqué.
Voilà, et tout simplement parce que le roman dont je vais vous parler maintenant se passe à Jackson, dans le Wyoming.
Mon Dieu, que tu fais un bon DJ, Jacques.
N'est-ce pas, hein? Donc, c'est un roman de C.J. Box qui s'appelle L'homme délaissé, qui est paru au Seuil policier et qui a été traduit par Annick Haussmann. Donc je vais présenter un peu, plutôt que le roman, le personnage de C.J. Box, qui s'appelle, n'est-ce pas, qui est garde-chasse dans le Wyoming. Il s'appelle Joe Pickett.
La prochaine fois, il faut que tu ramènes les lunettes, là.
Oui, c'est pour ça. Il est garde-chasse dans le Wyoming, dans un patelin qui s'appelle Saddle String. Il a sous sa juridiction un territoire qui est vaste comme un département français. Il a un 4x4, un cheval, un chien.
Les départements vont disparaître, non, pardon.
Plus un rack d'armes. En gros, il est garde-chasse, donc il n'est pas censé faire la police, sauf quand c'est dans ses attributions, c'est-à-dire les chasseurs qui chassent sans permis, en dehors des limites, ou en dehors des dates, etc. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, sûrement parce que c'est un héros de roman, il est toujours mêlé à des histoires qu'il ne regarde pas.
Oui, bah déjà, quand on a un rack d'armes dans sa maison...
Oui, mais là, ils en ont tous. Hein. Non, oui, c'est dans sa voiture qu'il a le rack d'armes.
Ah bon, en plus.
Dans son 4x4.
Pardon.
Alors, évidemment... des histoires qu'il ne regarde pas, une vache paisible qui explose en plein pâturage.
Ça, c'est un couvage pour la Norvège.
Un gouverneur qui chasse sans permis, des écolos frappent à dingue. Ça lui tombe toujours sur lui. Évidemment, ça fait pas du tout le bonheur des flics du coin, qui aiment pas du tout qu'on se mêle de leurs histoires. Et donc, qui, évidemment, lui en veulent à mort. Et quand je dis à mort, dans ce roman-là, c'est vraiment à mort. Heureusement, ce brave Piquette, il a sa famille, un garçon, une fille, une femme qu'il adore, mais aussi une belle-mère envahissante et donneuse de conseils.
Un peu cliché, tout ça.
Mais bon, ça, on est quelques-uns à avoir ce problème-là. Au début du roman, il est muté dans le comté voisin de Saddlestring, à Jackson, donc, justement, dont on parlait, qui est apparemment un endroit magnifique, qui est juste au pied du parc, enfin, au début du parc de Yellowstone, au pied des Grands Tétons.
Évidemment, on reparle de Reese Witherspoon.
Voilà.
C'est pas possible.
Grand Téton, qui s'appelle comme ça en américain, parce qu'apparemment, c'est un nom qui aurait été donné par les trappeurs canadiens qui
étaient
descendus...
Reese Witherspoon. Ah non, pardon.
Non.
Je me suis trompé d'histoire.
Et donc, en fait, il est muté, enfin, pour quelque temps, pour remplacer un de ses collègues et amis
dans les
garde-chasse.
Petits tétons, non.
Si tu me laisses finir ma phrase.
Pardon.
Ce quel collègue et ami s'est récemment suicidé. Évidemment, suicide qui paraît tout à fait suspect à Joe Piquette et qui va mener, évidemment, son enquête aux grandes dames de la police locale, une autre. Mais ce n'est pas tout. Il va être de nouveau aux prises avec des écolos. Alors, ces écolos, c'est pas n'importe qui, c'est la première communauté de la bonne viande.
Donc, la communauté de la bonne viande.
La communauté de la bonne viande, c'est-à-dire qu'ils veulent que la viande soit... enfin, que le troupeau soit traité avec une certaine... comment dire ?
Déférence.
Déférence, voilà. Et qu'il soit abattu dans les règles, enfin, tout ça. C'est un peu n'importe
quoi. Enfin, il la bouffe quand même, quoi, après.
Mais il la bouffe quand même, voilà. Ils sont accros à la viande saine. Aussi, il y a aussi, évidemment, des promoteurs immobiliers qui veulent faire le Beer Grass Village, un espèce de grand complexe sécurisé et champêtre dans les montagnes.
Ou peut-être on boirait de la bière, non ? Beer Grass ?
Non, beer, c'est comme le beer. C'est pas la beer, c'est beer, comme l'ours.
Ah, pardon.
L'ours des montagnes, voilà.
Le grizzly.
Le grizzly, exactement. Voilà. Et donc, évidemment, il va être mêlé avec tous ces gens-là. Et il va, ce brave Joe Piquette, en enquêtant, empiéter sur les plates-bandes de pas mal de monde et se mettre à dos... plein de
les
gens.
Écolos.
Voilà. Donc je vous laisse découvrir comment il va s'en sortir, mais ça sera pas facile pour lui. Surtout que du côté de Saddlestring où il a laissé sa femme, il y a aussi quelques petits ennuis.
Bon, j'espère qu'elle est armée elle aussi.
Sa femme est armée. De toute façon, ils sont tous armés. On a rencontré Joe Piquette et il nous disait que lui, pour tout au monde, il sortirait jamais sans une arme. Enfin, quand il est venu à Frontignan, quand même, il n'en avait pas. Il avait son
Alors,
chapeau.
Je ne voudrais pas mettre la zizanie, mais ce n'est pas Joe Piquette qui est quand même...
C'est
J. Box, l'auteur, l'écrivain.
Mais bon, c'est tellement ça, Madame Bovary, que...
Ouais.
Voilà. Donc, je vous rappelle, c'est J-Box, l'homme délaissé au seuil policier. C'est le sixième tome et il y en a déjà... les précédents sont parus en point seuil. Donc, vous pouvez les lire.
Voilà, peut-être vous pouvez commencer par les points seuil pas chers.
Le premier est vraiment excellent. Si jamais tu me dis le nom, vu que tu as le livre dans les mains.
Bah, écoute, je vais essayer de faire ça alors qu'il nous reste quelques secondes. Eh ben non, je ne trouverai pas le premier roman qui s'appelle « Détonation rapprochée, point seuil » paru en 2006,
voilà.
Vous devez le trouver.
Mais on n'est pas du tout obligé de les lire tous.
Ni dans l'ordre.
Ni dans l'ordre. De toute façon, il rappelle quand il y a des événements qui sont passés importants, il le rappelle dans une petite note, donc c'est très bien, genre la vache explosée, là, qui est très drôle, il le rappelle à chaque fois. Il faut dire que nous, ça nous a beaucoup marqué.
Ça nous a beaucoup marqué. On vous laisse.
Sur
au revoir.
Nous vous souhaitons une bonne soirée et à la prochaine émission.